journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Huitième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, 25 000 manifestants dans toute la France à 15 heures, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Rassemblement et cortège dans le calme, la majeure partie du temps, des heures, entre autres à Paris, reportage d'Élodie Barbel à Marseille, création contestée d'une coordination. À Budapest, nouvelle mobilisation anti-urbaine, encore et toujours hostile à la nouvelle loi sur le travail votée par le gouvernement illibéral. Un texte qui constitue, selon Jacques Rupnik, un point de convergence pour l'opposition hongroise. À la fin de cette édition, nous ferons le point sur la réunion du groupe de Lima, chargé de trouver une sortie de crise au Venezuela. Une déambulation fluide avait conduit quelques milliers de manifestants place de la Bourse au pied des locaux de l'agence France Presse, deux symboles sur un plateau, pour des gilets jaunes pourfendeurs du capitalisme financier et d'une presse aux ordres au fil des heures. La tonalité a changé. Bonsoir Élodie Rabel.
Bonsoir.
La situation, Élodie, a dégénéré à proximité de l'Assemblée nationale.
Oui, bloqués sur leur chemin, les gilets jaunes ont voulu forcer le barrage des CRS. Un barrage incompris des gilets jaunes, dont Maxime Nicole, présent dans le cortège. Pour lui, la violence n'est pas l'œuvre des manifestants.
On a eu des lanceurs de balles en tir tendu tout à l'heure, heureusement personne de blessé. On a eu des grenades dispersantes dans les jambes, heureusement personne de blessé. La violence, elle vient pas de nous. La violence, la colère, elle est là. La colère du peuple est là.
Une colère alimentée par la répression des CRS, comme l'explique Nathalie en gilet fluo, les yeux encore rouges des jets de lacrymogènes qu'elle a reçus.
On est obligé de passer dans toutes les rues de Paris. On se fait gazer de tous les côtés. Alors que c'est autorisé, nous ne laisse pas notre droit, notre devoir, tout est bafoué. On en a marre. Là, on en a marre. On ne bougera pas, on sera là tous les jours s'il faut.
Ne rien lâcher, c'est le mot d'ordre qui se répète semaine après semaine. Philippe Lemotard, membre des services de sécurité chez les Gilets jaunes, espère que les policiers rallieront leur cause.
Je pense qu'on est au stade où encore on n'a pas une grande, on n'est pas assez nombreux sur la route, dans la rue. Donc du coup, on manque de légitimité vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais à un moment donné, les flics nous rejoindront, quoi qu'il en soit. C'est tous des pères de famille, ils ont les mêmes problèmes que le peuple français. Tout ce qu'on en reproche au gouvernement, ils sont aussi concernés que nous.
Environ 3500 personnes dans le cortège parisien. Mais pour ce gilet jaune, le chiffre officiel importe peu à côté des revendications des manifestants.
Pour moi, le plus important, c'est la fraternité qu'il y a dans la totalité du mouvement gilet jaune. On y est pour des revendications, c'est déjà pour nos retraités. C'est l'annulation de la CSG pour nos retraités, que le RIC soit mis en place, mais on va aller beaucoup plus loin. C'est que on va, de par le RIC, on va revenir, on veut retrouver notre souveraineté nationale, notre souveraineté monétaire et financière. Donc soit on le fait avec l'Europe, soit on le fera sans l'Europe, mais on va y arriver.
L'acte 8 n'est pas terminé, qu'un acte 9 est déjà prévu. Ce sera le 12 janvier à la Défense, près de Paris.
Merci à vous, Élodie. De nombreux rassemblements ont eu lieu à Bordeaux, Toulouse, Rouen, Caen, Saint-Brieuc, Valence, Montpellier, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Limoges et Marseille. Marseille, où a eu lieu une tentative de structuration du mouvement. Ce fut présenté par ses initiateurs comme, je les cite, un temps fort et décisif dans la concrétisation de l'entrée en politique, dans le cadre institutionnel, d'un mouvement citoyen issu de la mobilisation des Gilets jaunes. Fin de citation. Une réunion s'est tenue cet après-midi dans un local appartenant au journal La Provence et sur le trottoir, plus de 100 Gilets jaunes ont dit leur désapprobation. C'est un reportage de Marie-Christine Loriol.
Il y a les gilets jaunes de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Quelques dizaines de participants avaient été autorisés à pénétrer dans le hangar à papier collé aux rotatives, les autres maintenus à distance. Pour Lydie, venue d'Avignon, cette réunion n'est pas représentative du mouvement.
C'est des gens qui ont des casseroles, qui sont dans une récupération, on le sent depuis le début, et qui ne sont pas légitimés par la base. Aujourd'hui, ils ne sont représentants de personne. Et vous voyez bien, ils nous méprisent, là, avec les agents de sécurité devant les grilles. Selon moi, c'est vraiment dans un but d'aller aux européennes et de se faire une petite place au soleil dans la structuration actuelle.
Directement visé, Christophe Chalençon, leader auto-désigné de ce mouvement clairement politique, comme l'explique l'un de ses soutiens, Paul Marat.
On a récupéré déjà plus de 14 000 pré-inscriptions sur notre site en quelques jours. Et je pense qu'il n'y a pas que des gilets jaunes. Donc on va essayer de faire une année 2019 constructive par rapport à un beau mouvement qui a démarré en 2018. Mais voilà, aujourd'hui on y va.
Un mélange qui devrait néanmoins prendre le nom de Gilets jaunes, le mouvement.
Des gilets jaunes également dans les cortèges hongrois. Et oui, c'est devenu un symbole de la contestation du pouvoir. Aujourd'hui, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Budapest pour dénoncer une nouvelle loi sur le travail qualifiée d'esclavagiste et votée par le gouvernement de Viktor Orban. Et l'autorité des employeurs a proposé 400 heures supplémentaires par an à leurs salariés, payables dans les 3 ans. Début de la contestation mi-décembre et elle ne semble pas s'essouffler. Une première pour la Hongrie, selon Jacques Rupnik, professeur au CERI, directeur de recherche, spécialiste de l'Europe centrale. Jusque-là, les mobilisations de l'opposition était ponctuelle. Avec cette loi, l'opposition semble avoir trouvé un point de convergence.
Je crois qu'elle touchait quelque chose de concret dans la vie de beaucoup de Hongrois ordinaires. C'est-à-dire que quand vous avez des lois qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs, à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, on a toujours l'impression qu'il s'agit de questions institutionnelles ou de questions abstraites. Lorsqu'il s'agit d'ONG, elles sont stigmatisées tout de suite par le pouvoir comme des agents de l'étranger, de George Soros en particulier, le milliardaire américain d'origine hongroise et qui est un peu la bête noire du régime. Donc vous avez là, avec une loi sur un problème social, l'organisation du travail et la rémunération du travail, là vous avez quelque chose qui dépasse complètement des questions institutionnelles qui peuvent paraître lointaines et abstraites ou questions qui ont trait, disons, à telle ou telle activité de la société civile. Là, il s'agit de quelque chose qui, je crois, peut rassembler une bonne partie de la population. Alors, je crois que ça, c'est une nouveauté parce que l'opposition avait tendance à se mobiliser sur des questions sociétales, sur des questions de société. Or là, ce qui revient, c'est la question sociale. C'est une nouveauté pour l'opposition, mais aussi pour M. Orban, qui n'était pas habitué à être confronté à ce type d'opposition.
Jacques Rupnik avec Maïwenn Bordron. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale déclare que les résultats provisoires à la présidentielle du 30 décembre dernier ne seront communiqués que la semaine prochaine. Un report inquiétant dans un pays sous haute tension. Le pouvoir sortant a en effet suspendu l'accès à Internet ainsi qu'à Radio France Internationale. Nouvelle médiation pour l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, qui œuvre à la consolidation d'une trêve dans le port d'Odaïda, est à Sanaa pour des discussions avant de retourner à Riyad en Arabie Saoudite pour y rencontrer des responsables yéménites en exil. Réunis hier, les 14 pays membres du groupe de Lima, créé en août 2017 pour trouver une issue à la crise vénézuélienne, n'ont pas su parler d'une seule voix. Un pays, le Mexique, a refusé de désavouer Nicolas Maduro. À Quito, Éric Sanson.
L'arrivée d'un régime de gauche au Mexique a changé la donne au sein du groupe de Lima. Tous les pays n'étant plus nécessairement d'accord sur les réponses à apporter face à Caracas, la déclaration finale a fait preuve de pragmatisme. 13 pays ont par exemple confirmé qu'ils ne reconnaîtront pas le nouveau mandat de Nicolas Maduro qui doit assumer le 10 janvier prochain. Pour eux, la dernière élection présidentielle vénézuélienne est illégitime. Le Mexique n'a pas signé, mais ne quitte pas le groupe de Lima. Les signataires ont demandé à Nicolas Maduro de transférer le pouvoir temporairement à l'Assemblée nationale jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Caracas a sans surprise rejeté cette déclaration. Pour le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, le groupe de Lima encourage un coup d'État au Venezuela sous la direction des États-Unis. Les pays signataires se sont déclarés prêts à réévaluer l'état de leurs relations avec Caracas, mais avec un éventail de possibilités suffisamment flexibles pour que chacun y trouve son bonheur. Les plus durs pourraient rompre leurs relations diplomatiques, d'autres simplement retirer leur ambassadeur. On retrouve le même pragmatisme dans le choix laissé à chaque pays de permettre ou pas l'entrée sur son territoire des hauts fonctionnaires du régime vénézuélien ou d'élaborer des listes de personnes naturelles et juridiques vénézuéliennes qui se verraient bloquer l'accès à leur système financier et pourraient voir leurs biens saisis.
Près de 30 000 personnes sont actuellement hébergées dans des centres d'évacuation dans le sud de la Thaïlande au lendemain du passage de la tempête tropicale Pabuk qui a provoqué des inondations et des pannes de courant. La météo de demain dimanche pour la France métropolitaine, une grande partie du pays sera sous de la grisaille compacte et tenace, gelée encore fréquente au sud. Températures minimales qui s'abaisseront entre moins 6 et moins 1 degré dans le sud-ouest et le massif central. Ailleurs, elles seront comprises entre moins 2 et plus 2 degrés en général. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique d'Aliyaha.